Les canons allemands tiraient sur le bois des corps, et les chasseurs, tapis dans leurs retranchements, étaient en même temps soumis depuis l'aube aux tirs des obusiers et des mortiers installés par les Allemands dans les positions conquises. Le bruit du départ de ces projectiles permettait de comprendre que le bois était investi de trois côtés. La seule issue possible se trouvant en direction du bois de Faïs et du village de Beaumont. L'infanterie allemande n'attaquait pas. Les chasseurs devinaient qu'il y avait de plus en plus d'Allemands aux lisières du bois et même à l'intérieur. L'homme trop assuré de sa sécurité voit diminuer l'acuité de tous ses sens, alors que le danger les développe. À midi, quand le bombardement diminua d'intensité, les chasseurs qui se trouvaient dans des abris reçurent l'ordre de sortir. Le colonel Drian se tenait à l'extérieur de son PC, un fusil à la main. L'assaut allemand se déclencha vers 12h10. Ce n'était pas plus que la veille une charge à la mode de l'ancien temps. Des silhouettes coiffées du lourd casque apparaissaient brièvement sur la neige et se défilaient en même temps que bourdonnaient les balles et que tiraient quelques mitrailleuses. Des mortiers continuaient aussi à tirer. Les silhouettes allemandes étaient sans cesse plus proches et plus nombreuses, tandis que chacun des chasseurs constatait que les copains étaient de moins en moins nombreux autour de lui. Cette augmentation et cette diminution simultanée avaient quelque chose d'irréel, de mystérieusement intolérable. Quelques obus éclatèrent au-dessus des têtes venant du sud-est, du côté français. Les hommes désespérés se mirent à pousser des imprécations contre les artilleurs. Mais quelques minutes plus tard, quatre mitrailleurs vinrent rendre compte à Drian qu'une pièce allemande de 77 venait de s'installer sur la route de ville. C'était elle qui tirait. On aurait pu presque dire à bout portant. L'ordre concernant les premières positions était toujours aussi simple, demeurer sur place. D'ailleurs, Drian répugnait, par tempérament, à donner un ordre de retraite. Enfin, battre en retraite sous le feu de plein fouet d'un 77, s'ajoutant à celui de l'infanterie, n'était pas nécessairement une solution salvatrice. Drian désira sans doute s'attaquer à l'ennemi le plus immédiatement redoutable, et il donna à son ordre au mitrailleur une forme paternelle et rassurante. « Mes amis, c'est bien simple. Vous allez mettre votre pièce en batterie juste face à la route, et je ne donne pas une minute à vivre aux artilleurs. » Les témoignages rapportent que les mitrailleurs hésitaient, mais un lieutenant les entraîna. Les chasseurs entendirent peu après le bruit de lents moulins à café. La mitrailleuse tira sur le canon pendant quelques secondes, le temps pour les servants du 77 de pointer sur elle. Un obus, et il n'y eut plus ni mitrailleuse ni mitrailleur. Peu après, un chasseur blessé se présenta au PC de Drian. « Mon colonel, la 9e compagnie n'existe plus. » Les comptes rendus devenait aussi simple que les ordres. Les positions du bois des corps étaient tournées les unes après les autres. Le lieutenant Robin avait emporté ses documents réglementaires dans le nouveau réduit qu'il tenait. Quand il vit les Allemands s'avancer de tous les côtés à la fois, il fit un tas des documents et y mit le feu, puis il prit un fusil. Quelques minutes plus tard, les assaillants le faisaient prisonnier. Progressivement, on voyait des Allemands là où il y avait eu des Français. Dans des morceaux de tranchées, des chasseurs privés de munitions se battaient corps à corps, à coups de crosse, de pioche et de bêche. Il y eut dans la journée, à l'intérieur du bois des corps, plusieurs actions furieuses menées par de petits groupes d'hommes, et qu'il y a lieu d'appeler des contre-attaques, bien qu'elles se fussent déroulées sur de très petits espaces. Des morceaux de tranchées furent ainsi repris aux assaillants et tenus pendant quelques heures. Mais il n'y avait rien à faire contre la marée montante et bien conduite des troupes d'assaut allemandes. 16 heures. La situation devenant de plus en plus critique, Drian, après avoir conféré avec le commandant Renoir et le capitaine Vincent, décide de replier ses chasseurs afin de continuer plus utilement la résistance en arrière. Le repli est entrepris dans les règles, calmement, une compagnie couvrant le mouvement. Mais Drian n'a donné son ordre qu'à contre-cœur. Il se demande encore si on ne pourrait pas tenir davantage. Il s'attarde à un poste de secours où on soigne des blessés. La section d'arrière-garde de la compagnie de couverture est anéantie. L'ennemi presse de plus en plus. Auprès de Drian, un chasseur tombe, frappé d'une balle. Et Drian, tirant de sa poche un sachet de pansement, bande lui-même le blessé. Il repart, descend dans un trou d'obus, remonte. Au bord du trou, il s'arrête, étendant les bras. « Oh là, mon Dieu !» Un demi-tour sur lui-même, et il tombe. C'est fini. À 100 mètres de là, le commandant Renoir tombe en avant, le front troué d'une balle. Les chasseurs évacuent le bois en tiraillant et en lançant leurs dernières grenades. Le 18e corps avait reçu l'ordre d'enlever à tout prix le bois des corps ce jour-là, écrira le Kronprinz dans ses souvenirs de guerre. Et il était dans l'après-midi fortement engagé dans la forêt à la hauteur de la route Ville-Vachereauville. Les deux corps voisins reçurent l'ordre de soutenir le 18e corps d'armée par une action de flanc.